Alors, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage, justement, d'une jeune femme qui nous raconte comment ça se passe avec sa maman, qui est une jeune patiente Alzheimer. On écoute ce témoignage.
Oh, on va boire pour se remonter.
Toulouse, novembre 2019.
Une petite bière bio. Bon, allez, à la tienne. Un petit coup.
Dans la cuisine de ma mère.
Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux.
L'année de mes 26 ans, ma mère a été diagnostiquée d'une pathologie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Enseignante en philosophie, elle s'est retrouvée, à 53 ans, incapable de faire cours face à ses élèves. De choisir les mots justes pour leur parler comme elle aimait tant le faire, de l'esthétique, de la justice, de la liberté. Dans le cas de ma mère, la maladie s'attaque en premier lieu aux fonctions du langage, à la capacité de lire, d'écrire, de parler. À ce jour, il n'existe pas de traitement.
Voilà.
On estime qu'en France, environ 35 000 personnes de moins de 65 ans sont atteintes d'Alzheimer ou d'une pathologie apparentée. Un quotidien invisible et une réalité méconnue qui se répercute à tous les stades de la maladie. Depuis deux ans, pour essayer d'accompagner ma mère, j'ai l'impression d'être propulsée dans une enquête d'investigation à l'échelle de nos vies. Je passe des nuits sur Internet, j'apprends par cœur des acronymes aux noms invraisemblables, j'enchaîne les coups de téléphone. Cette enquête me fait penser à mon métier de journaliste. Alors, j'ai eu envie de donner une voix à l'oubli. J'ai décidé de réaliser ce documentaire.
Voilà, donc c'est le début d'un podcast tout à fait passionnant qui est réalisé par Agathe Charnay. Et Agathe Charnay est avec nous dans la salle. Je vais lui demander de nous rejoindre. Bonjour Agathe et bravo pour ce très beau travail. Voilà, je vais pouvoir discuter toutes les deux un petit peu. Installez-vous. Donc très jeune, vous venez de l'expliquer. Vous découvrez que votre maman est touchée par cette maladie d'Alzheimer. C'était il y a 4 ans ?
Non, c'était il y a 2 ans et demi, c'était en février 2018.
Vous vous souvenez de l'annonce ?
Je me souviens très bien de l'annonce. On était à l'hôpital, donc à Purpan, à Toulouse, et on nous a annoncé en 15 minutes le diagnostic, ce qui a été assez rapide, et on est sorti de là complètement sonné.
On l'a annoncé devant votre maman ?
Pardon ?
On l'a annoncé devant votre, en présence
oui, devant
de votre maman.
Oui, devant ma mère, moi, et puis son compagnon.
Parce que c'était une des questions qui était posée justement, est-ce que quand on est accompagnant, quand on sait qu'un de nos proches est touché par cette maladie, est-ce qu'il vaut mieux lui dire ? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas prononcer le mot maladie d'Alzheimer ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, dans le cas de ma mère, elle s'en est rendue compte toute seule ou même par son travail, hein, puisque c'est dans le cadre de son travail d'enseignante au lycée qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Donc on se doutait en fait du diagnostic, nous, assez longtemps à l'avance, dans la mesure où il y avait eu plusieurs signes d'alerte comme ça tout au long de son parcours sur les 3 dernières années. Quelque part, c'était un peu un soulagement aussi de mettre enfin des mots sur une maladie, même si ma mère est atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer, donc on n'a pas vraiment le mot Alzheimer qui est prononcé. Moi, j'ai aucun mal à en parler, j'ai aucun mal à le dire à ma mère, et elle-même, petit à petit, elle apprivoise aussi ce mot. Je pense que c'est important de dire les choses.
Vous avez retrouvé dans ses affaires des signes qui prouvaient qu'elle-même se posait des questions plus longtemps, enfin plusieurs années avant le diagnostic.
Bah, tout à fait, on parlait tout à l'heure des parcours de diagnostic. J'ai retrouvé dans ses affaires une ordonnance en fait, pour aller en consultation mémoire qui datait de 2013, donc vraiment bien longtemps vu qu'elle était diagnostiquée en 2018 et elle n'y est pas allée. Et je la comprends aussi parce que je pense qu'elle avait aussi envie de profiter et de ne pas vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête d'avoir un diagnostic si jeune. Donc elle a attendu vraiment que ce soit plus possible. Elle était un peu face au mur quoi, quand on lui a annoncé.
Donc elle avait 53 ans.
Oui, hein, tout à
c'est
fait.
C'est ça, elle était professeure. Ses élèves se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et ont alerté quelque part. Ce sont eux qui ont pointé du doigt les premiers.
Oui, malheureusement, elle est enseignante en philosophie, en prépa. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça se voit assez vite quand on n'a plus toutes ses capacités intellectuelles pour faire face à des jeunes gens de 20 ans qui passent des concours. Donc en fait, c'est son chef d'établissement qui lui a demandé de plus venir enseigner. Donc c'était vraiment très brutal.
Et elle n'a plus jamais enseigné.
Bah non, malheureusement, ça n'a pas été possible.
Est-ce que tout de suite, vous prenez conscience que ça va complètement bouleverser les règles de la famille et la vie de la famille ?
Je dirais qu'on s'en est rendu compte dès l'arrêt maladie, où on s'est dit, bah oui, la vie change de ton, et puis peut-être que ce qu'on a prévu ne va pas vraiment avoir lieu comme on l'imaginait. Après, très vite, je pense qu'avec mon frère, on était dans une démarche plutôt positive, si on peut dire ça comme ça, d'essayer d'apprivoiser la maladie, de mieux la comprendre. Et ma mère, elle aussi, est une personne très résiliente et très positive. Et du coup, on s'est plutôt dit, bon, alors il se passe ça, certes, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va faire de joyeux, d'agréable ? Parce que la vie ne s'arrête pas après un diagnostic, surtout comme Madame Bonbois l'expliquait, chez les patients jeunes. Il y a plein de choses à inventer, plein de choses à faire. Et du coup, peut-être que c'était le moment de profiter.
Donc à ce moment-là, on a compris que vous êtes quelqu'un de curieux, c'est votre métier aussi, vous êtes journaliste, vous êtes comédienne, vous commencez à chercher des informations. Est-ce que vous en trouvez ? Est-ce que c'est difficile ?
Alors je pense que le problème pour les malades jeunes, c'est que, comme on l'a vu précédemment, on n'imagine pas que ce diagnostic puisse être posé si jeune. Moi j'ai un grand-père qui a aussi eu la maladie d'Alzheimer, mais j'ai envie de dire à un âge plus attendu, puisqu'il avait 80 ans. Nous, en effet, on s'est retrouvés un peu... voilà, en 15 minutes, on avait le diagnostic, on était dehors, faites de l'orthophonie, et puis quoi ? Et en se rendant sur Internet, j'ai pas forcément eu les bons réflexes, alors qu'il existe beaucoup de groupes d'entraide sur les réseaux sociaux, si vous les pratiquez, sur Facebook notamment, qui peuvent vous permettre de rencontrer des gens. Nous, on était très démunis, et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans le documentaire.
Notamment des informations sur les maladies jeunes, dans les formes jeunes, c'est ça que vous cherchiez, vous ?
Voilà, tout à fait, parce qu'en fait, les besoins d'une personne jeune ne sont pas les mêmes que celles d'une personne dite âgée, même si les désirs dans la vie sont évidemment les mêmes. Ma mère adore, par contre, Alain Souchon, mes grands-parents adorent Mouloudji et Cora Vauquer, donc forcément, il faut trouver aussi des activités et des moments de loisirs qui soient adaptés à son âge, et ça, pour les personnes jeunes, c'est très dur.
Alors vous habitez à Paris, elle habite à Toulouse, c'est un obstacle de plus. Comment est-ce que ça se gère, cette distance, cette géographie ?
Je pense pour toutes les personnes qui quittent leur famille dans le cadre de leurs études très jeunes comme moi, il y a forcément cette sensation de distance et de culpabilité qui vient s'ajouter quand évidemment son parent est malade, hein, quelle que soit la maladie. Je dirais que ça me pousse à passer plus de temps avec ma mère que si elle n'avait pas été malade, ça c'est sûr. J'essaie de la voir une fois, au moins une fois par mois, voire tous les deux mois quand j'ai pas le choix au niveau de ma vie professionnelle. Quelque part, cette distance nous rapproche et puis ça force aussi à repenser son propre schéma de vie, comment on envisage sa relation à son parent, bien sûr.
Vous me disiez que vous aviez intégré la présence de votre maman sur la durée. Il vous arrive de passer plusieurs semaines d'affilée avec elle, de partir en vacances avec elle et avec vos amis. Et finalement, vous avez intégré tout ça. Et il y a des bons moments de bonheur dans tout ça.
Alors ça, c'est hyper important. Pour moi, quand le diagnostic tombe, c'est un choc. Je pense que quel que soit l'âge qu'on ait, c'est un choc. Évidemment, on va vous dire c'est un drame, c'est une catastrophe. Oui, et en même temps, il faut vivre. Et ça prend du temps de vivre. On ne peut pas tous les jours se réveiller en se disant « je vis un drame et une catastrophe » ou « ma mère en vit un ». Et nous, du coup, on a vraiment décidé qu'on allait... ma mère n'allait pas rester seule. On allait le plus possible l'inclure à nos vies. Alors, comme on peut, bien sûr, parce qu'on est jeune professionnel avec mon frère. Mais en effet, mes amis viennent en vacances avec elle. Quand elle est à Paris, il l'emmène voir des expos. Elle va justement au club de ping-pong inclusif pour malades jeunes, dont on va vous parler juste après, quand elle vient à Paris. On essaie au maximum de rester dans la vie et d'être au contact de gens, qu'ils soient malades ou pas, et de surtout pas « oh non, non, mais elle a Alzheimer, faut la laisser tranquille, lui parlez pas ». Non, non, on fait le maximum pour l'intégrer et je pense que c'est hyper important et pour les malades et pour les proches.
Vous avez beaucoup d'énergie, votre frère aussi, le compagnon de votre maman. On sent que vous êtes tous les trois unis.
Il y a aussi ma grand-mère. Ça, c'est aussi une particularité pour les personnes jeunes, puisque ma grand-mère, qui a 89 ans, qui a accompagné son mari, accompagne aussi sa fille. Donc pour elle, c'est quand même un parcours de vie assez lourd, mais elle est aussi très, très présente auprès de ma mère. Donc on a beaucoup de chance. On est beaucoup à pouvoir l'accompagner et à se relayer.
Et puis, il y a les soignants. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le diagnostic avait été très brutal. Comment se passent les relations avec les soignants pour vous aujourd'hui? Et je sais qu'il y a eu des moments difficiles et puis il y a aussi eu des bonnes complicités.
Voilà. En effet, pour nous, ça a été assez difficile au début. Pour moi, un diagnostic en 15 minutes, dans la configuration où on était, c'était trop court. On n'a pas vraiment répondu à nos questions, on n'a pas été orienté vers une aide psychologique, donc on s'est senti vraiment très seul. Et je pense que c'est fondamental pour les malades jeunes et dans les prises en charge de sortir de cette solitude et de tout de suite proposer un réseau d'associations, de propositions adaptées, quel que soit l'âge en fait du malade. Et cette solitude, je l'ai retrouvée dans le cadre de mon documentaire où je suis partie à la recherche aussi d'autres enfants de malades jeunes, où parfois, en effet, le lien entre le soignant et le patient ne se fait pas. On ne se sent pas écouté, on entend des mots qu'on ne comprend pas, on sort de là, et puis hop, dans 6 mois, dans 1 an. Et du coup, moi, j'ai pris la décision, en effet, de changer ma mère d'hôpital, où ça se passe vraiment mieux, puisqu'elle est à la salpêtrière avec Madame Bombois, que vous venez d'entendre. Mais je pense que prendre le temps de choisir son soignant et d'avoir cette relation de confiance, de soins, qu'on puisse parler vraiment de ce qui se passe à la maison, de ce qu'on ressent, c'est vraiment 1000 fois plus important que d'avoir un diagnostic et puis ciao quoi.
Revenons sur votre documentaire. Alors il s'appelle « Trop jeune pour oublier ».
Face à l'oubli.
Trop jeune face à l'oubli. C'est 4 épisodes de 15 minutes, c'est ça?
Voilà.
Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Donc on a compris que vous étiez dans une quête aux informations, mais pas que, vous avez des messages à faire passer.
C'était ma réponse, en effet, à cette lacune d'information. Je me dis que c'est un documentaire. Bah, si vous avez des enfants, dans mon cas, ou même si vous êtes malade vous-même, si vous êtes un proche, vous pouvez venir l'écouter et entendre toutes les ressources, parce que je suis vraiment partie à la recherche des solutions qui existent dans le quotidien, à la fois auprès de soignants, d'associations, de personnes malades, de leurs proches. Et ça permet d'avoir comme ça un panorama. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout, hein, il n'est pas exhaustif, mais de ce qui se passe vraiment pour les malades jeunes et leurs proches. Donc il y a donc ce message évidemment d'inclusivité, de rester dans la vie. Et puis la grande question pour nous aussi, c'est l'avenir. C'est qu'est-ce qui va se passer pour ma maman? Je lui souhaite de vivre très très longtemps. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est une maladie qui évolue très très vite. Le confinement a fait vraiment du mal à ces malades, et je tiens vraiment à le dire, de ce que j'ai constaté, rester enfermé tout seul chez soi, sans les stimulations. Ma mère, elle adore aller au cinéma, au théâtre, voir des amis. Ça, c'est quand même quelque chose de très dangereux pour ces pathologies-là. Et du coup... qu'est-ce qui va se passer pour elle, vu qu'elle décline très vite? Quelles sont les solutions? Est-ce que ma mère va être en EHPAD avec des personnes qui ont 90 ans, avec qui elle aura de superbes interactions, j'en doute pas, mais qui n'ont pas les mêmes besoins en termes de mobilité, en termes d'activité qu'elle? Et du coup, il n'existe vraiment pas grand-chose pour les malades jeunes. Les institutions se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a 3 en France, et puis il y a le village des Landes là, qui vient d'ouvrir, où il y a une maison pour les malades jeunes. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors moi j'adore l'idée de la coloc Alzheimer, j'adore l'idée de du cohabitat, de l'habitat intergénérationnel. Ce sont des solutions qui existent et qui se développent, et je suis sûre que notre génération, on a plein de choses à inventer, et pour les personnes âgées et pour les jeunes, pour créer de nouvelles solutions. Donc je suis toujours en quête de ces solutions, y compris pour mes grands-parents, et qu'ils aient Alzheimer ou pas d'ailleurs.
Alors vous racontez dans assez facilement, vous vous exposez des situations drôles, tendres, poétiques. Racontez-nous l'Italie, le chant, le trio que vous faites avec votre frère.
Oui, alors j'ai un petit frère qui est musicien, et ce qui est assez magique, c'est que ma mère donc a perdu très vite le langage. Donc c'est assez compliqué de discuter vraiment avec elle, parce que déjà il faut vraiment qu'elle soit en confiance et en tout petit comité, et après on joue beaucoup à question pour un champion des mots quand même. Elle fait mais si, tu sais, la voisine, elle habite à côté, et puis on finit par trouver le nom. Et en fait par contre elle a pas du tout perdu la musique, parce que c'est quelqu'un qui adore chanter, et du coup, on chante énormément avec elle et mon frère. Voilà, on fait des karaokés à n'en plus finir, Julien Clerc, Anne Sylvestre, et puis quand elle connaît plus les paroles, elle a toujours l'air qui est là, et en plus, elle chante très juste, donc c'est même agréable à entendre, je pense.
Donc il y a toutes ces capacités qui sont toujours là, et à côté de ça, elle ne peut plus prendre une douche toute seule, il y a des choses de la vie quotidienne qui sont très compliquées.
Bah, comme je vous le disais, ça va vite. Et puis, c'est des phénotypes cliniques, en effet, qui sont très spécifiques chez les malades jeunes. Et du coup, oui, il y a des gestes du quotidien qui disparaissent. Parfois, c'est assez paradoxal. On peut vraiment regarder un film et elle suit absolument tout. Mais elle, si je lui dis « prends une assiette », elle ne saura pas ce que c'est. Du coup, il faut trouver des astuces. Après, moi, je suis une proche absente. Je ne suis pas au quotidien avec elle. Donc, j'ai aussi beaucoup plus de patience que les personnes qui sont toujours avec la personne malade. Mais je pense que c'est des ajustements à trouver tous ensemble. Et moi aussi, quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans le quotidien, c'est ne plus parler de la personne malade à la troisième personne devant elle. Et c'est quelque chose où je milite vraiment dans ma famille là-dessus, parce qu'il y avait tout un moment où ma mère, elle comprend très bien ce qu'on dit, et tout le monde parlait d'elle à la troisième personne. Et ça, je pense, c'est pas que moi qui fais des choses pour elle, c'est elle qui fait des choses pour moi, et elle reste aussi ma mère.
Et elle garde le moral avec cette maladie identifiée ?
C'est très difficile, évidemment, c'est extrêmement dur de vivre ça. Je peux pas parler pour elle, je sais pas ce qu'elle ressent au quotidien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est extrêmement courageuse, et que devant mon frère et moi, je sais qu'elle peut perdre le moral à d'autres moments, jamais elle ne fait ça, donc elle reste vraiment une mère qui nous protège et qui fait le maximum pour ses enfants. Moi, j'aime le mot aidant, il est utile, mais moi, je suis la fille de ma mère. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
On a entendu Anna qui nous expliquait cette tendance, ce risque de vouloir penser qu'on est irremplaçable. Vous vous autorisez, on le sent, à vivre. Est-ce qu'un jour, s'il faut passer la main, c'est des choses qui sont entendables pour vous ?
Déjà, je passe la main, puisque ma mère vit actuellement avec son compagnon, qu'elle vit aussi avec ma grand-mère parfois, qu'elle vit avec nous. Oui, mais comme je vous le disais, il faut réfléchir à des solutions qui, pour moi, soient avant tout humaines, stimulantes, positives. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre et à construire pour les personnes qu'on dit fragiles, je pense, quelle que soit leur maladie, sur la manière dont on vit avec elles dans la ville et puis dans la vie.
Il y a cette question de l'hérédité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tourmente ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'à partir du moment où on a un proche Alzheimer dans sa famille, dès qu'on oublie ses clés, on se dit « Oh là là, ça y est, c'est parti !» Donc oui, forcément, on y pense. Et puis moi, je sais en plus que ma mère, son père aussi a été malade. Donc j'ai plus de chance d'avoir ce fameux cocktail explosif dont parlait Stéphanie Bombois. Aussi, quelque chose qui est important pour les proches, c'est de se faire aider. Moi, je vois une psy depuis un an. Ça fait du bien aussi de pouvoir partager tout ça. Et puis, il peut exister des consultations gratuites chez des psychiatres ou des psys. Oui, on y pense, forcément. Après, là, moi, j'ai 28 ans. On verra au jour le jour. À l'heure actuelle, je ne veux absolument pas me lancer dans des protocoles génétiques pour moi-même. J'ai envie de vivre. Peut-être que je vais mourir du coronavirus d'ici quelques
temps. Non. Ça, non, c'est exclu.
Je plaisante. Mais je veux dire, il y a plein de manières de vivre et d'avancer. Et peut-être que plus tard, j'aurai envie de faire des investigations. Pour le moment, j'ai surtout envie de construire ma vie et celle de ma mère.
Est-ce que vous avez eu à lutter contre des tabous autour de vous, ou contre des rejets, ou contre des réactions inappropriées ?
C'est ce que je vous dis, parler à la personne devant elle comme si elle ne comprenait pas ou comme si elle n'était plus là. Ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Des tabous, des choses inappropriées. Oui, et puis je dirais en effet, la génétique, on se sent un petit peu surveillé parfois par ses proches.
Je vais demander à Stéphanie de nous rejoindre parce que j'ai 2-3 questions de la salle et je pense que c'est bien si vous êtes avec nous, Stéphanie. Je sais que vous connaissez bien, Agathe et Stéphanie. Vous œuvrez ensemble. Je vais vous passer mon micro tout de suite, ou Agathe va peut-être le faire. Quand un patient est atteint d'Alzheimer, est-ce qu'il est préférable de lui annoncer ou parler seulement de troubles de mémoire ? Est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait eu un lâcher-prise sur la vie du patient ? Ça fait partie des questions qu'on nous pose ici. Oui, alors Agathe a déjà un peu répondu à cette question. Moi, je pars du principe que les patients, je vous l'ai dit, ils sont quand même conscients de leurs difficultés. S'ils viennent à la consultation, c'est qu'ils veulent savoir ce qui leur arrive. Et comme l'a dit Agathe, les patients, ils savent en fait qu'il y a un problème. Et que le fait d'annoncer les choses, ça peut entraîner une sorte de soulagement parce que enfin on sait ce qui se passe, on sait pourquoi il y a des difficultés dans le quotidien. Et même si c'est une annonce diagnostique qui est compliquée, qui est difficile, le fait de l'annoncer, de mettre un mot sur les problèmes, c'est, je crois, essentiel. Et ça nous permet après de pouvoir parler librement. Il y a pas de tabou et on prend en compte aussi la personne qui est devant nous. Si on répond à son questionnement de qu'est-ce qui nous arrive, bon, c'est pour moi essentiel.
On s'adapte, de toute façon, je suppose, à chaque personne. Une question, je travaille en ESA depuis quelques années. Nous avons ces derniers temps de plus en plus de malades jeunes. Pourquoi ? Est-ce que c'est vérifié ? Ou est-ce qu'il y a des réponses à cette question ?
Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu... Alors, ce que l'on sait, c'est que l'incidence des démences, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, diminue pour une même tranche d'âge quand on compare les patients 20 ans avant. Donc, il y a eu plusieurs études à ce sujet.
C'est-à-dire qu'à âge constant, on est moins touché aujourd'hui. Voilà. Quand j'ai 80 ans aujourd'hui, j'ai moins de risque d'être touché par la maladie qu'une personne qui avait 80 ans il y a 25 ans.
Exactement. Sauf que, bon, on est de plus en plus nombreux sur Terre, on vieillit de plus en plus, et donc le nombre de sujets augmente quand même. Et pourquoi il y a une incidence qui diminue ? C'est probablement la prise en charge des facteurs de risque. C'est aussi l'éducation qui est importante.
Comment maintenir une relation proche sans troubler la personne malade lorsqu'elle ne reconnaît plus ses enfants ? Comment est-ce qu'on peut se positionner en tant qu'enfant quand on voit que notre proche ne nous reconnaît plus ? Bon, c'est douloureux.
Oui, c'est évidemment pas facile. Est-ce que notre proche nous reconnaît plus ? C'est peut-être déjà une question. Il s'est peut-être pu nous nommer, mais souvent, même quelqu'un qui a une maladie déjà évoluée reconnaît la voix, sait que la personne est quelqu'un de bienveillant. Donc voilà, je suis pas complètement sûre qu'on reconnaisse plus complètement les gens. Donc, enfin. Voilà, il faut toujours continuer à avoir une relation de fille avec sa mère ou de sœur avec son frère, enfin, etc. Il faut continuer ces relations-là. Bien sûr.
Ce sont d'autres modes de communication, peut-être.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai aussi accompagné mon grand-père, du coup, beaucoup plus âgé, puisqu'il est décédé à près de 90 ans. Je sais pas s'il me reconnaissait plus, il pouvait plus parler, ça c'est sûr, mais il y a toujours quelque chose qui, à un moment du rendez-vous, qui s'allume dans l'œil, dans la manière dont il serre la main. Enfin, j'étais vraiment là en plus sur sa fin de vie. Je peux pas dire qu'il me reconnaissait plus. Je pense qu'il faut inventer d'autres manières de communiquer, même si elles sont plus farfelues, même si elles sont plus poétiques ou plus douces. Mais il y a toujours un moyen de connecter, moi, je trouve.
Beaucoup d'art-thérapie qui sont proposées aussi pour parler avec le corps, pour parler avec la créativité, ouais, le dessin, la peinture, la musique. Oui, beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que les sujets jeunes sont moins souvent orientés vers les équipes spécialités Alzheimer? Elles interviennent pourtant à domicile en début de maladie, mais on a peu de patients jeunes qui nous sont orientés, ou alors tardivement. C'est aussi votre constatation, ou ce sont peut-être des observations de professionnels, d'aidants professionnels?
Oui, probablement, parce que l'intérêt de l'ESA, c'est que c'est une prise en charge qui est personnalisée et qui est du coup dirigée directement sur la personne malade. Donc ça a évidemment un intérêt, même et d'autant plus chez les patients jeunes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore un message à dire, Agathe, ou est-ce que vous avez réussi à donner l'ensemble des informations que vous vouliez partager avec nous aujourd'hui ?
Non, ça va. Sinon, j'ai donc ce documentaire. N'hésitez pas à le partager s'il y a d'autres jeunes dans mon cas. Et puis, s'il y en a qui veulent m'écrire aussi pour échanger, avec grand plaisir.
Voilà. Les informations sont dans votre programme. Merci beaucoup à toutes les deux. Et merci pour ces confidences, Agathe.